Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce qui est quelque chose qui est devenu un événement traditionnel du Festival d'Épinal, qui est la table ronde consacrée à l'anthologie officielle du festival, publiée par l'édition Nemos, et qui cette année parle du thème, enfin des thèmes trolls et licornes, donc deux catégories de personnages imaginaires bien connus. Et dans le fond, pas si imaginaire que ça, parce que comme on va le voir, nos différents intervenants ici ont réussi à caler l'édite troll et l'édite licorne dans des endroits extrêmement improbables, y compris d'ailleurs ici. Et donc, je ne vais pas présenter les auteurs, parce que je pense quand même que vous les connaissez depuis un certain temps, mais j'ai Pierre Bordage, qui lui m'a collé un troll et une licorne dans les banlieues du 9-3, donc dans un endroit que tout le monde connaît. Hein, à Trom. Lionel qui lui nous a parlé carrément de l'équivalent de Marine Land, d'un zoo merveilleux avec trolls et licornes, mais encore une fois de manière légèrement différente. Estelle, toi tu nous as fait un beau village moyenâgeux au fort de la forêt où on pourrait penser que tout se passe comme d'habitude, et bien non. Olivier, tu nous as évidemment invité en Bretagne, parce que s'il y a des endroits où les trolls tirés de menhir peuvent s'exprimer, ben c'est bien là. Et puis, Sylvie Miller avec son complice que je ne nommerai pas, enfin si, on va le nommer quand même, on peut le nommer. Nommons-le donc avec Philippe Ward, nous ont carrément mis des trolls et des licornes ici même, dans un festival Épinal légèrement alternatif, mais où un certain nombre d'entre nous se sont reconnus. Et je peux vous dire que quand j'ai vu passer un troll poutouneur, je me suis dit, je vais prendre cette nouvelle. Bon. Voilà. Donc, je vais vous interroger tous, parce qu'en fait, la question que je me suis dit, c'est des trolls et des licornes, donc, ils sont donc partout, littéralement partout, à notre époque, dans nos lieux, etc. Et en fait, dans la vraie vie, c'est quoi, Pierre, un troll et une licorne? Celui dont tu as eu envie de parler, c'était quoi? Ce serait bien qu'ils aient des micros, d'ailleurs, les gens.
On va peut-être pas garder tous les micros, nous, ça pourrait être bien. Voilà.
Alors, les trolls et les licornes dans la vraie vie, c'est la question.
Ouais. Dans ta vraie vie à toi.
Dans ma vraie vie à moi, il suffit que je regarde autour de moi et je vois plein de trolls. Et aussi plein de licornes. Donc, je me suis plutôt, évidemment, à chaque fois que je reçois une invitation à participer à l'anthologie du festival, j'attends le dernier moment, vous connaissez bien le truc, pour savoir ce que je vais en sortir. Donc, jusqu'au dernier moment, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Et puis, ça m'est venu naturellement de dire que finalement, le troll, c'était le troll en nous, ou la possibilité du troll en nous, à n'importe quel moment. Et donc, j'ai choisi effectivement un troll contemporain dans un bon lieu. C'est une sorte d'homme-montagne aussi, qui est une définition du troll que j'ai trouvé quelque part, et qui fait régner la terreur, tout simplement, parce qu'il est costaud, il est fort, et il pense que tout lui est dû. Et pour la licorne, je suis allé chercher beaucoup plus loin. Je suis allé chercher dans la mythologie hindoue, en fait, parce que Ekasringa est une des premières licornes recensées. C'est une femme avec une corne. Et donc, j'ai choisi ce personnage-là parce que elle semble l'opposé du garçon, le troll que je viens de décrire, hein, qui sévit dans les banlieues, qui règle les trucs à coups de batte de baseball. Ce que font tous les trolls, hein, bien entendu. Tous les trolls jouent au baseball, vous ne saviez pas ça, mais j'avais des infos de première main. Qui semble être la fragilité, et la beauté et la fragilité incarnée, et qui va se révéler beaucoup plus dangereuse qu'il ne peut l'imaginer, et même beaucoup trop forte pour lui finalement. Et au lieu de faire ses quatre volontés comme il a l'habitude de le faire, ben ça, il va être obligé de passer par les volontés de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça m'a amusé beaucoup de renverser ce rôle et de le mettre dans un univers contemporain, parce que je pense que le troll se développe très bien en milieu contemporain et en milieu urbain surtout.
Je le confirme. Et toi, Lionel, tu avais fait un truc extraordinaire en tant que biologiste, certes biologiste marin à la base, mais pourquoi pas. Tu nous as carrément raconté la biologie de la licorne et comment la nourrir en fait dans son milieu naturel, et comment faire venir les enfants pour assister à des joyeux spectacles de licorne avec des arcs-en-ciel qui leur sortent du... Tu vas nous le dire d'ailleurs.
Enfin, ils sortent du... Enfin, faut voir.
Bref, ils leur sortent de quelque part.
Voilà.
Le savoir,
voilà. Mais les petits enfants aiment beaucoup le spectacle. La licorne, cette image de pureté, etc. Au début, quand j'ai reçu le thème, l'image de la licorne est cet animal très pur et très enchanteur et limite trop pur pour moi. Je me suis un peu posé la question de ce que je pouvais faire, et je suis tout simplement allé chercher dans mon mon expérience personnelle qui est que, pardonnez-moi pour le terme, mais je suis, selon la nomenclature scientifique communément admise, une pouffe à dauphin. Donc, ouais, en général, on imagine une petite fille avec des couettes qui aime bien aller faire du poney, etc. Moi, j'aimais bien faire du dauphin. Donc, tout simplement, je me suis inspiré de ça. Le dauphin et toute sa pureté, etc. Je me suis dit, ah, ben voilà, c'est la licorne, tout simplement. Et donc, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être soigneur d'animaux marins il y a longtemps, cette nouvelle est rigoureusement exacte.
Voilà, donc non seulement c'est une ontologie utile, mais c'est une ontologie qui vous apporte énormément de faits avérés par les meilleurs spécialistes. Et Estelle, toi qui nous as mis dans cette espèce de village moyenâgeux classique, alors elle est vicieuse parce que j'avais dit troll et licorne, mais c'était soit troll, soit licorne, on n'était pas obligé de mettre les deux. Et elle nous a mis une licorne tout à fait étonnante, mais elle nous a fait aussi des gamins qui jouent aux osselets avec des dents de troll. Et ça, c'était très vilain quand même.
Bah disons, à la base, quand j'ai reçu le sujet, alors je me sens atrocement pas licorne aussi. Et j'étais partie sur quelque chose. Donc, par contre, le troll, en plus, toutes les mythologies nordiques du troll, ça me parlait énormément. Donc, j'étais partie sur un grand trip avec le royaume donc des mondes surnaturels du troll, des femmes renards avec des trous dans le dos, des châteaux dans les brumes, etc. Un roi des trolls qui était pris dans une cascade de glace. Bref, ça a commencé à faire 300 pages, je pense. Donc, après, il fallait rendre la nouvelle 15 jours après. Je me suis aperçue que j'étais partie pour un roman. Je me suis dit, oups. Et j'ai décidé de partir sur complètement autre chose. Et en plus, il se trouve que Jean-Claude Duniac nous avait dit de faire du joyeux, du léger, du tendre. Donc, j'ai pris un petit village. Et puis, c'était le printemps et c'était la fête de la licorne. Et puis, aller voir de la licorne parce que la licorne, c'est joyeux, c'est joli et c'est tendre.
Ça a raté.
Ouais, voilà, en gros. Et donc j'ai dit ça à mon primo lecteur en plus à qui je fais relire mes textes et il m'a dit mais je veux pas lire ça, je veux pas lire ça, pourquoi ? Je l'ai écrit et puis ensuite il a lu et m'a dit bah si en fait ça va, parce que bon il y a un peu de mauvais esprit dedans aussi en fait.
Oui, c'est curieux à quel point un sujet comme le troll et la licorne, ça entraîne de la part d'un certain nombre d'auteurs du mauvais esprit. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais évidemment absolument pas et à laquelle je ne pouvais même pas imaginer, vu les gens que j'avais sollicités, que ce genre de choses pouvait se produire.
Mais non.
Néanmoins, nous verrons avec Sylvie Miller et d'autres, ça s'est traduit quand même par des textes d'une grande poésie. Mais entre-temps, on a eu quand même un texte historique, c'est-à-dire le troll dans sa perspective historique et la licorne dans sa perspective, on va dire, blasonnante.
Oui, je suis parti des images classiques de la licorne, la dame à la licorne, etc. Mais d'une part, le troll, je me suis dit, le pauvre troll, solitaire dans sa grotte. Donc, il y avait tout de suite, j'ai eu cette image de la solitude, hein, et donc finalement, de tout ce qui apporte la solitude. J'ai replacé ça donc dans la Bretagne, dans une Bretagne alternative, c'est une uchronie, d'une Bretagne qui n'a pas connu la guerre de 100 ans. Qui n'a pas connu non plus la peste, parce qu'il se trouve qu'il y a une licorne attachée à la couronne de France, et comme tout chacun sait, la licorne protège des maladies. Donc il y a des liens là-dessus. Mais ce que je voulais surtout, c'est la réhabilitation de la garce. C'est-à-dire que pour moi, la licorne est une garce, et qui a de ses raisons d'être une garce. Mais j'aime beaucoup ce personnage, parce que justement, la garce se moque des hommes, se moque du mal, de tout ce que du sérieux, surtout dans un univers justement moyenâgeux, d'étiquettes moyenâgeuses, de rôles, etc. Et donc, elle ne prend pas tout ça au sérieux et elle se moque de ça. Donc, moi, c'est un type de personnage, la garce, que j'aime beaucoup en science-fiction, dans ma science-fiction. J'aime vraiment ce personnage-là. Donc, je suis pour la réhabilitation. Hein. Donc, la garce n'est pas une salope. Et ce personnage de la licorne, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage.
Et pour finir, on a quelqu'un qui, avec une tendresse qu'on va qualifier de particulière, a repris ce festival même en l'envahissant de trolls, de licornes, de différentes espèces plus ou moins bizarres. Et alors, ça vous est venu comment, cette idée? Parce que vous n'écrivez que des livres sérieux jusqu'à présent. Donc, comment est-ce que d'un seul coup, vous avez pu décider de faire quelque chose comme ça?
Bien sûr, effectivement, Philippe et moi, on est des auteurs extrêmement sérieux. On écrit de l'art science et donc la fantasy nous est totalement inconnue.
Vous écrivez de l'art d'archéologie, puisque tout se passe au milieu des dieux, en particulier égyptiens. Donc, on sait que tout ça est un véritable travail fouillé, quoi.
Oui, donc en fait, Philippe et moi, évidemment, on est des auteurs qui avons tendance à pas nous ennuyer quand on écrit. Et puis, on a pris nos petites habitudes avec toute la série de Lasserre où il y a pas mal d'humour. Et donc, quand on a lu le thème et puis que Jean-Claude nous a un petit peu glissé, on a eu un petit appel du pied quand même, disant « Oh bah vous devriez pouvoir faire quelque chose d'amusant avec ce thème ». On s'est dit, oui, peut-être que, parce que le troll, la licorne, on peut imaginer des confrontations un peu amusantes. Et puis d'un coup, on était en train de faire une petite séance d'échange, de brainstorming. Et puis on s'est dit, la fantasy, les créatures de fantasy, où est-ce qu'il y en a? Il y en a aux imaginales. Donc, ah oui, les imaginales. Alors, imaginons un pays fort, fort lointain. Dans les terres de l'Est de ce pays, donc ce pays est habité par des créatures, les créatures du monde ordinaire, des trolls, des licornes, toutes les créatures magiques, etc., et où on sait bien que les humains, ça n'existe pas. Les humains, c'est une espèce de mythe inventé. Certains disent qu'ils auraient existé un jour, qu'ils auraient disparu, mais évidemment, c'est des histoires à coucher dehors, les humains, ça n'existe pas. Alors imaginons que dans une petite ville qui s'appelle Eminmual, au bord d'une jolie rivière avec une butte et un château, le duc décide de contacter une licorne dénommée Tiffany, fringante et joyeuse, et elle a trouvé un nouveau courant littéraire qui s'appelle l'humaine fiction, et elle a envie de monter un festival sur ce thème. Et donc là, on était partis. Là, une fois qu'on s'est lâché, on s'est retrouvés avec des tables rondes animées par un ogre poutouneur appelé Dudu, avec éventuellement un écrivain appelé Lierre Mornage, qui était également mage climatologue de premier ordre. Parce que bon, il a été fort utile, ce mage, lorsque la rivière s'est mise à monter. Parce que bien évidemment, les habitués du festival vont reconnaître tout un tas de péripéties sur diverses éditions. Et donc c'était très amusant. Et alors nous avons le mage traducteur Lionel Le Sage qui lance des sorts de compréhension en direction du public pour faire passer toutes les langues, etc., etc.
Quand on vous disait que c'était quand même une anthologie sérieuse, on plaisantait pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc.
Oui. Et alors, bon, il y a une petite surprise au milieu, donc je ne dévoile pas. Mais enfin, on démarre dans ce monde-là et nous avons évidemment un troll qui va arriver là-dedans pour un petit peu mettre tout le bazar. Et donc, je ne vous en dis pas plus, mais il y a de quoi s'amuser largement.
Donc, des trolls partout. Et alors, je remarque que vous avez pu l'entendre de la part de mes petits camarades. La seule façon de jouer avec des personnages aussi extrêmes que le troll qui véritablement incarne la boue, la pierre, la nature dans ce qu'elle peut avoir de plus brut, de fonderie et de plus ancien à l'époque où les choses étaient simples, et la licorne qui est cette espèce de symbole de pureté insupportable, vraiment, moi j'ai les licornes, j'ai envie de leur mettre mon pied quelque part, et la seule façon qu'ils ont eu de jouer avec ça, ça a été justement de les pervertir. C'est-à-dire d'accoupler sauvagement les licornes avec les trolls, d'avoir, il y a une nouvelle absolument délicieuse qui est une parodie du Médecin malgré lui de Molière, où les licornes, la jeune fille licorne décide de lire, et lire c'est un truc que font les trolls, mais les licornes, elles se contentent de lâcher des arcs-en-ciel par là où je pense et de temps en temps des pierres précieuses, et donc elles n'ont pas besoin de lire, il vaut mieux qu'elles se marient et qu'elles se taisent. Et elle a décidé de lire et elle fait semblant de dépérir, et son jeune troll favori déguise son odeur sous un certain nombre de parfums et va lui proposer des vrais livres, livres d'imaginaire bien entendu. Et ça, c'est de la perversion comme j'avais envie d'en lire. C'est-à-dire, on a pris le sujet et on a dit, bon, on le tord et on le perturbe. Et ta licorne en particulier, Estelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que son idée de la pureté n'est peut-être pas tout à fait celle de tout le monde.
Disons, après, elle a sa propre vision de la vie, sa propre vision de la morale, mais elle est très gentille, en fait, et comme elle dit elle-même, elle ne force personne. Depuis, un peu trop longtemps, j'adore pervertir du jeune premier ou faire du jeune premier pervers. C'est une sorte de passion qui remonte à loin, au temps du théâtre, parce que je trouve que finalement, le blanc, c'est beaucoup plus beau qu'en dessous, on met quelques couleurs un peu plus glauques. Ça fait un joli contraste.
Et donc, en fait, tu as un jeune premier perverti, toi, tu as des garces. Je pense que vous étiez fait pour vous rencontrer, d'une certaine façon.
Oh bah merci. Oui, enfin, mais c'est cette. Merci. Oui, mais oui, tu vas le payer ça. Non, mais ce qui est bien avec, enfin, la licorne, c'est que, non mais, c'est que moi, c'est le rire. Et alors, justement, c'est un texte où je parle de. Alors, on parlait de faits vrais, c'est-à-dire que j'ai pris comme c'est une uchronie et donc c'est un récit historique. J'ai pris des choses pour démontrer que la magie est une science. Donc, les tours de Brocéliande, être étudiant en magie, c'est quelque chose de dur, de compliqué. Et en plus, j'ai la physiologie du troll. On peut reconnaître l'âge d'un troll aux classifications, etc. Donc, j'ai essayé surtout d'avoir cette démarche historique, y compris avec la magie, et d'avoir quelque chose. Donc, la magie est une science, et où l'illusion. Parce que c'est une différence entre la magie et l'illusion. Et l'illusion est un art. Or, l'illusion est une technique. C'est de la technologie. Donc, j'ai aussi la perversion, elle est aussi dans l'univers lui-même et dans les renversements. J'essaie de renverser tout, même l'univers. Parce que je suis un auteur de SF quand même, donc il fallait bien qu'il y ait un peu de science, y compris avec des trolls. Ma licorne est quand même un animal magique. Il y a une inspiration aussi, c'est de métamorphose. C'est-à-dire qu'en fait, vous apercevrez que cette licorne, c'est une femme. Parce que le principe de la licorne, normalement, c'est associé à la pureté, certes, et aussi au mariage. Hein, et c'est à la vierge, à la virginité et au mariage. Et que je me suis servi de ça, de pervertir, que le mariage aussi pouvait être perverti par une licorne.
Là, je vais faire un petit peu sérieux avant de donner la parole à Lionel, qui est le biologiste qui va bien. Mais tout à fait sérieusement, les gens ont cru à l'existence de la licorne, mais c'était attesté. Hein, c'était même écrit dans la Bible. Hein. Enfin, c'était vraiment un truc. Ils y ont cru jusqu'à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des cornes de licorne, qui étaient en fait des cornes de narval, qui étaient des trucs qui étaient hauts à peu près comme les petits piliers, comme ça. Il y en a un certain nombre de rois, Charles le Téméraire en avait, Charlemagne en avait un. On en voit d'ailleurs dans certains musées. Il y a un musée en Autriche, à Vienne, où vous avez la corne royale qui servait à démontrer que la nourriture n'était pas empoisonnée. Parce qu'elle avait cette réputation-là, on plantait la corne dans un plat, et si la corne devenait violette, ou se troublait, ou laissait échapper des bulles, ça voulait dire que le plat était empoisonné. Bon, c'est vrai que si vous plantez une corne de narval et que ça laisse échapper des bulles, à mon avis, il ne faut pas en manger. Mais en tout cas, c'était vraiment comme ça. Et les gens y croyaient. Les gens étaient persuadés que les licornes existaient dans un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs dans le plus profond des forêts, et les gens qui vous disaient en avoir raconté une, étaient pris au sérieux. C'était ça. Et toi, alors là, par contre, tu as pris le phénomène de vue du biologiste et tu en as fait un animal sauvage, mais un carnivore d'abord, et puis un animal qu'il faut véritablement dresser. Quoi. Alors que justement, tout ce qui était intéressant, c'est tu imagines mon petit poney, la licorne, etc. Et puis en fait, tu te dis non, c'est pas ça. Et ça, c'était fascinant.
Bah, en fait, dans la nouvelle, on suit un troll qui travaille dans un parc magique qui s'appelle Magic Land, où l'on a des trolls, des Quetzalcoatl, des phénix, etc. Et des sorties scolaires pour aller les regarder. De temps en temps, on fait sauter les licornes dans des cerceaux et tout, c'est super sympa. Mais ils exercent cette espèce de fascination. Et ça, en fait, je me suis aussi interrogé simplement sur la fascination qu'on peut avoir envers envers tout simplement le monde marin, qui était mon boulot et que donc je connais pas mal. C'est intéressant. Alors, tu cites les licornes parce que le narval. Le narval, donc, qui est ce mammifère marin avec cette espèce de longue corne, donc qui est torsadé d'ailleurs, hein, qui tel qu'on l'imagine dans la représentation de la licorne. Ce qu'on sait assez peu en fait, c'est que c'est une dent. Qui donc est effectivement récupéré comme corne de licorne. Donc oui, j'en ai fait. Je me suis amusé. On a à réfléchir sur la fascination qu'on a pour en fait les grands carnivores. On parle dans le jargon de la mégafaune charismatique, c'est-à-dire tous les lions, les baleines, les orques, tous ces trucs qui sont impressionnants. Et voilà. Et donc donc dans un des fils rouges, c'est que le personnage qui est un troll est absolument scandalisé quand les gens comparent les licornes à des chevaux, parce qu'un cheval c'est herbivore, ça n'a pas la classe. Il y a un animal qui a la classe, il est carnivore. D'ailleurs, il leur balance des cœurs de veau et de petits agneaux, etc. Plus ils sont mignons, mieux c'est. Donc, non, oui,
c'est répugnant, je dirais. C'est, sur le plan biologique, cette anthologie est totalement répugnante, hein, je tiens à vous le dire.
Non, sur ce qui est toujours assez marrant, pour être un peu plus sérieux, ce qui est fascinant, c'est tout ce qui est le courant de la cryptozoologie, c'est-à-dire d'essayer de partir donc, était une, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des tas de scientifiques, entre guillemets, de chercheurs qui cherchaient les animaux du bestiaire fabuleux. Licorne, etc., et qui est un courant qui reste aujourd'hui, mais qui devient de la fantaisie où l'on s'amuse à réfléchir à la biologie potentielle, putative des grands animaux. Comment est-ce qu'on pourrait faire un dragon carrocheur de feu, par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait faire une licorne qui fonctionnerait? Voilà, donc moi j'en ai fait une licorne carnivore dont on ne connaît pas le secret de la reproduction, et c'est un grand problème pour un zoo.
Et c'est vrai que c'était une question que se posaient les gens au Moyen-Âge, parce que la corne de licorne, ça pouvait faire 2 mètres de long. Et on en trouvait de 2 mètres de long. Et le problème, c'est qu'on imagine une licorne comme un petit poney. Et un petit poney avec une corne de 2 mètres de long, bah, c'est juste un truc qui ne marche pas, quoi. Ça se cogne partout. Donc 2 mètres de long, ça voulait dire qu'on avait quand même une espèce de grand bestiasse, façon très grand cheval, pratiquement petit éléphant, quoi. Si on veut avoir un truc de 2 mètres. Bon. En plus, c'était censé être un animal de forêt. Le coup de s'entortiller les machins dans les branches, à mon avis, je le sentais moyen. Ça. Mais ça faisait rien. Les gens partaient du principe que ça pouvait fonctionner, justement à cause du côté magique. Et il y avait aussi tout le travail de la licorne qu'on ne capturait que parce qu'on avait une vierge qui aidait à la tenir. Et il y avait des représentations, mais pratiquement érotiques, de la licorne essayant de percer le sein du chasseur qui lui-même l'a percé de sa lame, avec la jeune fille au milieu qui les tenait tous les deux. Enfin, c'était une scène de trio. Je veux dire, pratiquement, vous allez sur YouPorn, vous avez exactement la même chose, la licorne en moins, quoi. C'était véritablement ça. Et c'était dessiné dans les tapisseries que faisaient les dames, quoi. À mon avis, ça devait leur donner des sujets de conversation pendant qu'elles tissaient. Mais c'est vrai, je veux dire, c'est véritablement comme ça. Je vous raconte pas de blague. Lisez la préface, hein, il y a des tas de trucs là-dessus. Et alors, du coup, on s'est aperçu quand même que le troll, la licorne moins, la licorne a pratiquement disparu dès qu'on a découvert le narval. Mais le troll, par contre, a retrouvé d'abord un habitat naturel grâce à Internet. On en trouve dans pratiquement tout truc de conversation. Et aussi dans des festivals comme celui-ci, là, je veux dire, c'est...
Ah oui, puis alors nous, notre troll, c'est un vrai troll, avec tous les accessoires du troll. Il pète, il pue, il rote. Voilà. D'ailleurs, il embarrasse bien les elfes quand il voyage avec eux en diligence. Et donc, effectivement, c'était assez amusant de mettre ce troll dans la situation de l'espèce de fan de la vraie littérature, puisque dans ce monde de créatures, la vraie littérature, il doit y avoir des créatures, etc. Cette espèce de littérature impie avec des humains, c'est pas bien. Et donc, il va aller de festival en festival pour manifester finalement son hostilité à ce genre. Il s'exprime lors des tables rondes. Et en même temps, il est très lettré, il est fin connaisseur du genre qu'il défend. Et donc, c'était amusant de voir ce personnage finalement de troll mal dégrossi, mais extrêmement cultivé dans le même temps.
Inspiré de faits réels. Et toi, alors en plus, une chose qui m'a fasciné aussi, c'est à quel point il y a eu des histoires d'amour dans cette anthologie. Parce que on a d'un côté la pureté absolue, à la limite qu'on n'ose même pas aborder, de l'autre, un qu'on n'a pas du tout envie d'aborder du tout, parce qu'effectivement, c'est un troll, c'est ce qu'il y a de plus répugnant dans les créatures imaginaires. Et pourtant, chacun d'eux a un cœur, et de temps en temps, il y a ce moment merveilleux où ils se dirigent l'un vers l'autre et ils trouvent le moyen de se dire des choses.
Heureusement que tu parles d'amour, parce que j'avais l'impression d'être au milieu d'une bande de pervers un peu perdus. Et moi qui suis pur naturellement, je me disais, oh là là, ça y est, je suis souillé à vie.
J'aurais jamais
dû participer à cette anthologie. Jamais.
Je te rappelle qu'un elfe est un troll qui a fait son coming out. Hein, alors donc...
Il y a un truc qui m'apparaît maintenant, d'ailleurs, longtemps après avoir écrit la nouvelle, comme quoi ça met du temps chez moi, mais ça doit être une particularité de mon cerveau, que la licorne est une métaphore de l'âme, tout simplement, avec sa pureté, cette virginité-là, et puis cette puissance, puisqu'on ne peut pas la tuer en théorie et qu'elle est immortelle. Et j'ai l'impression que le troll, c'est exactement l'inverse, finalement. Attention, là où on va, on ne sait pas trop. Hein. Vous m'arrêtez si je délire trop. Que le troll est la représentation matérielle, c'est-à-dire la descente dans la matière, et que c'est l'affrontement justement entre l'âme et la matière, l'esprit et la matière, qui est mon grand cheval de bataille, comme ça tombe bien, n'est-ce pas? Je m'arrange toujours pour me raccrocher aux branches. Et que voilà, c'est cette rencontre-là, cette espèce de lutte-là, ou cette, union-là qui semble en théorie impossible et qui est dangereuse aussi pour chacun des deux personnages parce qu'il va se frotter à quelque chose qui est l'inverse, l'antithèse de ce qu'ils sont. Quoi. Donc ça m'a beaucoup intéressé de travailler finalement inconsciemment, hein, parce que là, ce que je dis là, je le découvre au fur et à mesure que je le dis. Ce qui vous dirait que je suis très, très scripturant comme garçon. Je n'ai vraiment qu'une structure de pensée. Voilà, c'est cette rencontre improbable que j'ai tenté de décrire. Et moi, au contraire, je ne suis pas du tout horrifié par l'idée de pureté, non. Je trouve ça très beau comme idée de virginité et en même temps ce qui donne une puissance infinie contre laquelle finalement se brise la matérialité du troll. Quoi. C'est ça qui m'a vraiment passionné. En fait, j'ai l'impression que c'était une lutte de la volonté contre l'esprit, la volonté étant la matérialisation de la pensée. Je vais aller me coucher maintenant.
C'est bon, alors je vous propose de prendre une minute pour réfléchir, mais entre-temps, Olivier, toi justement, ce qui est l'ennemi de ta licorne, en fait, c'est sa propre stérilité. C'est l'incapacité justement que la matière la pénètre et la féconde.
Oui, parce que en fait, cette licorne, elle est attachée au roi de France, mais elle a des intérêts. Parce que j'ai découvert dans ce roi de France, c'est que Je crois que c'est Charles V, avant qu'il soit roi, avait une maîtresse, qui était la belle italienne. Et du fait qu'il a été roi, il a chassé sa maîtresse, parce qu'il fallait virer les apparences, etc. Et donc, cette licorne, en fait, c'est elle est destinée à être maîtresse d'un homme. Mais pourquoi pas simplement... D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est une garce, c'est pas une salope. C'est qu'elle ne cherche pas le pouvoir pour elle. Elle cherche le pouvoir pour avoir une lignée. Parce que, en fait, bah, on parlait des cornes de licorne qui protégeaient du mal, etc. Et donc, dans cet univers-là, bah, les gens, ils ont pourchassé les licornes pour obtenir ces cornes. Et donc, mon personnage, c'est la dernière de sa lignée. Et il se trouve que dans le royaume de France, elle est protégée. Mais sauf que être une licorne seule, dans cet univers humain, c'est pas vivable. Et donc, si elle essaye d'avoir des amants pour créer une lignée, c'est pour avoir enfin quelqu'un avec qui parler. Quelqu'un à qui transmettre quelque chose qui appartienne à son espèce, à ce qui est être licorne. Donc, c'est ça. C'est pas pour le pouvoir. C'est pas la maîtresse, c'est pas la concubine au sens chinois. Elle veut juste enfanter pour faire une lignée et pour avoir enfin. Cette idée-là, ensuite c'est a posteriori. Hein. Là aussi, c'est comme Pierre, il y a des choses, on voit. Mais d'où ça vient tout ça? Donc ça n'a rien à voir avec la fantasy, c'est Doctor Who. Dans les nouvelles séries du Doctor Who, le Docteur est en fait le dernier des Time Lords, le dernier des Seigneurs du Temps. Et donc, il doit protéger... En fait, il a un lien assez bizarre avec le master, le maître, parce que c'est le seul interlocuteur qui est de sa même espèce que lui. Et donc, il ne peut pas tuer le maître parce que c'est aussi la seule personne avec qui il va pouvoir partager ce que c'est qu'avoir été Time Lord. Donc, j'aime bien cette idée de le dernier de son espèce qui cherche à recréer une lignée, à recréer quelqu'un. Pourquoi recréer une lignée ? Pas pour s'aimer et pour dominer la planète, juste pour avoir quelqu'un avec qui parler et parler de choses qui appartiennent à notre espèce. Hein, c'est comme quand vous êtes français à l'étranger, si vous êtes tout seul, à un moment, c'est bien de retrouver un français, pas pour ensuite faire votre bastion français à l'étranger, c'est juste pour parler de choses qui n'appartiennent qu'à la France. Bon, de temps en temps, c'est bien aussi. C'est pas la totalité de la vie, mais c'est bien aussi.
Une bonne discussion sur les fromages, de temps en temps, c'est intéressant. Voilà. Mais toi, Estelle, justement, tu as presque une licorne qui est la déesse de la fertilité du village, si je puis dire. Et donc, c'est elle qui entraîne les gens à faire des bébés ou à avoir des relations en mariage et des relations qui sont du même sexe, etc. Enfin, c'est très panique, en fait. En fait,
c'était plus à la base, j'avais envie d'être gentille. Vraiment, mais c'est vrai. Hein, c'est un peu dérivé, mais... Disons que je m'étais pas mal renseignée sur les symboliques de la licorne. Donc déjà avant, enfin, j'avais pas mal au musée de l'abbaye de Cluny où il y a la tapisserie de la dame à la licorne. C'est pas très loin de chez moi. Et donc vraiment toutes ces symboliques-là, ça me parlait presque l'aspect moral de la licorne. Simplement, qu'est-ce que ça va être la morale ? Et en gros, au début, pour résumer très vite, on a un chevalier qui débarque pour chercher une corne de licorne dans le village de Morteg, qui est un trou absolument paumé, où ils ont une seule chose, c'est la fête de la licorne, parce qu'il paraît que la licorne, elle hante les bois à côté. Mais bon, donc en gros, ils ne veulent pas trop qu'on leur retire leur licorne, mais le chevalier, il a besoin de cette corne pour épouser une héritière et enfin avoir un royaume, parce qu'il n'est plus trop en âge de se battre. Mais finalement, il arrive quand même bardé de plein de mauvaises intentions, et en rencontrant vraiment, comment dire, les sortilèges de Morteg, il va apprendre qu'il n'y a pas que ça dans la vie, qu'il n'y a pas que l'ambition, qu'il peut y avoir de la tendresse aussi entre les êtres.
Il se laisse littéralement pénétrer par cette idée.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est super moral. C'était un fabliau moral, un peu en voulant m'inscrire à ma manière dans la lignée des fabliaux moraux médiévaux. Voilà. Voilà, c'est justement de remettre un petit peu d'humanité et de se dire que le chevalier qui veut être une figure imposée, un peu de chevalier qui va faire sa quête et hériter d'un royaume, eh ben il va pas être une figure imposée, il va juste être un être humain. Mais est-ce que finalement il s'en portera plus mal? Je suis pas sûre.
Élargir son esprit et pas que son esprit.
Ça, après, voilà, c'est. Il y a aussi beaucoup de nostalgie derrière.
Ah, Lionel, parle-nous de l'insémination artificielle des licornes et des tentatives de reproduction.
Démarre-toi avec ça, c'est ça?
Non, par contre, il y a une chose qui n'est pas dans l'anthologie, ce sont des trolls en train de se reproduire. Parce que là, d'abord, l'anthologie aurait été interdite au moins de 18 ans, ce qu'on ne voulait pas quand même, spécial. Et puis en plus, elle aurait définitivement cessé d'être sérieuse. Parce que les trolls ne se reproduisent plus. Il faut savoir que les trolls jaillissent de la terre. La terre s'en trouve, la matrice de la terre s'en trouve. Il y a une espèce de coulée de lave qui sort, et puis quand ça se refroidit, ça fait un troll, quoi. Ou alors c'est juste que la terre s'amusait toute seule. Mais bon. Et donc, par contre, des licornes en train de tenter de se reproduire, des licornes en train de s'accoupler, des licornes en train de suggérer des accouplements, etc., il y en a plein le bouquin. Et vraiment, ça vous a déclenché cette excitation sexuelle à tous, enfin, parce que c'est quand même, enfin moi je vous ai dit, entendez, on fait calme quand même, mais non, vous êtes totalement laissé aller à votre côté pervers. Mais qu'est-ce qui vous a pris?
Mais en parlant d'excitation sexuelle, on a aussi un incube. Mais
arrête de me regarder, si tu veux.
Damnette, je suis démasquée.
Mais ça a été un phénomène quand même extrêmement curieux. Je me suis dit, ils vont pas tomber dans le paillard. Ben si, ils ont paillardisé à fond avec des cornes de licorne qui se glissent à des tas d'endroits. Et puis vraiment, c'est très très curieux à quel point cette anthologie a été, je dirais, a été charnelle et a été amoureuse, mais en mettant les doigts dedans, quoi. C'est vraiment ça.
Bah, le troll, par essence, c'est évidemment, comme on l'a dit, c'est un petit peu un personnage graveleux, sans faire un mauvais jeu de mots avec les graviers.
C'est une érection, c'est comme Superman, c'est une érection permanente, le troll.
Tout à fait, tout à fait. Et la licorne, à côté, c'est le symbole virginal par essence. Donc, de toute façon, derrière, c'était forcé de...
Il y en avait un des deux qui devait céder, c'est clair. Voilà.
Bah, chez moi, elles sont tellement pures et virginales et que c'est des anges qu'elles n'ont pas de sexe et qu'on ne sait pas comment elles se reproduisent, d'ailleurs.
Oui, et puis quelque part, c'est la rencontre entre un principe mâle d'un côté et un principe femelle de l'autre. Donc, même s'il est virginal, on va essayer de contourner cet aspect virginal et bah, forcément, les idées fusent.
Et Pierre, tu penses que l'histoire d'amour magnifique que tu décris va se concrétiser? Alors, ça va donner quoi? Ça va donner des gosses de banlieue dans toute leur splendeur?
Eh bien, démerde-toi avec ça.
Ah non, je ne les ai pas ménagés pendant l'écriture du truc, mais je leur ai dit, vous n'avez pas fini. Hein.
Je pense que le parcours du personnage troll de ma nouvelle, c'est une accession à l'humanité, tout simplement. Et donc, ça se fait par l'amour. Sinon, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas le sentiment amoureux, il ne peut pas y avoir d'accession à l'humanité. C'est beau ce que je dis. Oh, mon Dieu. Et donc, voilà, c'est ce parcours.
Il y a donc de vrais moments de poésie dans ce livre.
Ouais. Tout à fait. Il y a des morceaux de poésie dedans, dans ce troll de drame.
Et il y a d'autres textes dont on ne parle pas. D'ailleurs, si je peux en dire quelques mots, il y a un poème qui raconte l'histoire malheureuse d'un troll, etc., qui est une chose qui vous émeut jusqu'aux larmes ou qui vous fait rigoler jusqu'aux larmes, suivant les cas. Vous avez une première nouvelle qui est tout à fait intéressante parce que c'est la nouvelle dans laquelle le troll reste lui-même jusqu'au bout. Et le troll est véritablement l'incarnation de ces dieux anciens qui étaient la forme même de la force de l'humanité. Et au fur et à mesure que l'humanité, si je puis dire, perd son contact avec ce monde ancien, qu'en particulier elle se christianise, le troll est là pour leur dire « Attendez, vous êtes en train de vous perdre. Et moi, je ne vous laisserai pas vous perdre. » Et donc, il y a le retour des mythes anciens. Et ça, c'est extrêmement bien fait. Il y a des tas d'histoires, je dirais, où la licorne est quelqu'un qui vous capture et puis qui vous relâche et qui vous oblige à penser comme elle. Enfin, il y a tout un abord de cette idée de troll et de licorne. Parce que quand j'ai associé les deux avec cette idée d'anthologie, j'étais persuadé qu'en fait, les gens allaient se faufiler dans l'opposition. Mais pas du tout. Ils ont fait du rassemblement. Et ça, c'est une chose étonnante. Nous vivons une époque dans laquelle on a envie de rassembler la pureté, la matérialité. On a envie de transcender tout ça. On a envie de jouer avec les codes. Et on a envie, d'une certaine façon, d'incarner les deux à la fois.
C'est très beau ce que tu dis.
Démerde-toi avec
ça. Je pense, oui, il y a effectivement, c'est le cœur de la fantasy finalement, une espèce d'aspiration où les trolls, c'est la laideur du quotidien qu'on connaît, qui parfois n'est pas très drôle. Mais ce que je trouve très positif et sympathique c'est, dans le troll, c'est qu'on en rigole au bout du compte. On va pas se lamenter avec ça, ça nous empêche pas d'aspirer à la pureté, tout en partant de la glaise. Ça y est, moi aussi, je suis devenu poète.
Non, de toute façon, c'est vrai que le troll, s'il était capable de se moquer, la première personne dont il se moquerait, c'est de lui-même. Ça, c'est une chose dont je suis profondément convaincu. Mais le troll, c'est aussi véritablement, de temps en temps, on en revient aux fondamentaux, si je puis dire. On en revient à la base. On dit, attendez, c'est beaucoup moins compliqué que ce que vous croyez. Et en tout cas, ça peut être plus simple. Et moi, je vais mettre un grand coup et je vais taper. C'est Alexandre tranchant le nœud gordien. C'est le type plantant un menhir dans son jardin. Enfin, c'est toute cette idée-là des choses, quoi. Le ciel, certes, mais un gros caillou qu'on attaque au burin, quoi. C'est, en fait, le troll, c'est Obélix, alors que la licorne, c'est cette espèce de personnage délicieuse, là, comment s'appelle-t-elle, qui est Falbala, oui. Voilà. Et donc, on a le village, effectivement, il y a ce moment où il danse pour essayer de séduire Falbala, et véritablement, on a notre couverture d'anthologie.
Et puis le troll et la licorne aussi, nous, dans notre nouvelle, ça a pu aussi être le prétexte à une réflexion sous-jacente, en fait, beaucoup plus sérieuse, derrière l'apparent humour, etc.
Excuse-moi, j'essaie de leur vendre une anthologie. Si tu veux, si on fait un télo, ça ne va pas du tout le faire. Là. Non, tu le fais.
Tu fais bourrin. Un troll.
Tu le fais bourrin. Allez, fais-le-moi bourrin. Allez, d'accord.
Et donc, en fait, c'était de pouvoir réfléchir, effectivement, à ces créatures magiques et puis à réfléchir à la fantaisie et à cette littérature un peu particulière qui n'est pas forcément prise au sérieux. Et puis, finalement, de se dire qu'on peut rêver avec tout ça et que l'important... dans ce fameux pays des mille moelles, etc., l'essentiel, c'est de lire, c'est d'aller vers ces créatures imaginaires. Et, voilà, c'était un petit peu le côté sérieux. Tiens, je deviens poétique, moi aussi.
Voilà, vous vous rendez compte l'effet qu'on peut avoir, que ce genre d'anthologie peut avoir sur les gens. On est tous partis dans le graveleux, et là, on finit pour faire croire que derrière, il y avait une véritable pensée. Et d'une certaine façon, ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est produit dans beaucoup de nouvelles où ils ont dit, mais vous savez, on va commencer, on va vraiment faire dans le lourd, et puis après, vous allez voir, nous allons nous élever avec cette espèce de poésie, et la blancheur de la licorne ne sera que l'écran sur lequel nous projeterons l'ensemble de nos fantasmes. J'avais préparé celle-là. Avant de passer la parole au public, je trouve que c'est une phrase comme ça qu'il faut lancer pour l'anthologie. Donc, avez-vous des questions? D'abord, est-ce qu'on pourrait se séparer à ce moment-là? On met les licornes d'un côté, les trolls de l'autre, et on essaie de... Ouais, je pense qu'en plus, c'est à peu près bien organisé. Donc, on vous met licorne ici, on met troll là. Donc, vous avez le droit de poser des questions troll, poser des questions licorne, et on vous écoute. On va faire un match, hein, je vous signale. Hein. Et puis, les gagnants auront droit à une didacasse. Hein. Donc, alors, allez-y. Sinon, on continue à vous dire des bêtises. On n'a pas de problème, on a des réserves, il n'y a aucun problème. Mais vous n'avez vraiment pas de questions vives. Est-ce que d'abord, un certain nombre d'entre vous l'ont lu ou ont jeté un coup d'œil à... Est-ce qu'on vous a donné envie de vous dire, OK, plongez-vous dans un univers intellectuel et rempli de choses tout à fait réfléchies, en sachant que ben, c'est raté. Hein. Ouais. Ah oui. Justement, ça n'est interdit. Enfin, je recommande quand même de savoir lire pour l'ouvrir, mais ça peut aider. Encore que j'ai vu un jeune homme qui était, d'un âge tout à fait berceau, qui tenait un livre avec conviction entre les dents et qui commençait sérieusement à essayer de le manger. Je ne suis pas tout à fait sûr que l'anthologie soit nourrissante sous ce plan-là, mais on peut l'essayer. Mais non, c'est interdit à rien. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Et je pense que ça, je dirais, ça couvre assez bien le sujet avec un certain nombre de facettes du sujet. Ça, c'est un plaisir. Je peux vous raconter comment moi j'ai travaillé. Donc, je leur ai effectivement envoyé un petit mot en disant bon, l'époque a besoin de sourire, je crois qu'elle a besoin de licorne. Et j'ai ajouté quand même, et de troll aussi, soyons justes. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai le sentiment qu'en ce moment, le troll qu'on raconte sur Internet, le troll qui, d'une certaine façon, est malheureux et vous le fait savoir, eh ben, il fait partie de notre vie et il va falloir apprendre à, je dirais, à coexister avec lui, à, je dirais peut-être pas à l'apprivoiser, mais en tout cas à savoir qu'il est là, que c'est une partie de ce que nous sommes et que nous aussi, de temps en temps, ben, on se met sur un fil où on n'a rien à faire sur Facebook et on sort une énormité juste pour le plaisir de sortir une énormité, c'est sûr. C'est vrai que Internet a réellement offert un espace de reproduction aux trolls. Et d'ailleurs, au point que je pense qu'à un moment donné, il va falloir lancer des campagnes d'éradication. Parce que...
Mais aussi, c'est aussi le regard de la société sur les anormaux. C'est aussi le regard de la société sur les anormaux. C'est, le terme n'est pas exact. C'est sur les geeks, sur les otakus, sur tous ces gens-là, qui, les décalés qui ont leur propre univers. On imagine le gars qui regarde des animés ou des mangas dans sa... sur son ordinateur, sur son écran, c'est aussi, qui est enfermé. Moi, j'ai fait un troll qui est enfermé dans sa caverne, hein, qui a découvert la possibilité, grâce à un écran, de pouvoir discuter enfin avec une jeune fille. Donc, enfin, il a un contact avec quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est aussi ça, le troll. C'est la solitude de celui qui est en dehors du monde. Juste que pour préciser, hein, c'est que je suis un amateur de manga et d'animation japonaise, donc je ne critique pas les amateurs de ça, j'en suis un, mais je veux dire, j'ai eu le regard, il faut avoir vécu ces années où quand on allait dans les festivals de BD, il y avait des tracts pour vous dire, ne repoussez pas les amateurs de manga, parce qu'un jour ils viendront à la vraie BD, donc bon... Donc on avait l'impression vraiment d'être le troll effectivement dans le festival. Enfin bref. Donc on l'est tous dès qu'on s'investit. Donc le troll finalement, on dit investi, il est dans la terre. En fait, il s'investit dans quelque chose aussi. Par rapport, tu disais Pierre, l'aspect éthéré finalement de la licorne, de l'esprit, par rapport à la manière, le faire, mais aussi le fait de s'investir dans quelque chose. Le troll, c'est aussi celui qui s'investit, qui s'ancre dans une matière. Peu importe la matière, ça peut être aussi ça.
Oui, c'est vrai que dans l'ensemble de vos nouvelles, hein, la licorne se contente d'être, alors que le troll agit tout le temps. C'est particulièrement vrai chez toi.
Oui, ou le rêve du troll que j'ai, son rêve c'est de devenir soigneur de licorne. Le problème c'est qu'il c'est un troll, donc il a une petite tendance à taper sur le public, donc il fait une psychanalyse. C'est compliqué pour avoir de l'avancement. Et effectivement, la licorne est une espèce justement d'idéal qu'il peine à atteindre et qui le fait rêver depuis toujours. Et d'ailleurs, il a une vie misérable. Lui aussi, il est dans une espèce de caverne, enfin, c'est une espèce de studio dégueulasse où il se fait réchauffer des pattes et en regardant des documentaires, en gros. Et oui, la licorne, je pense, de toute façon, et même quand on l'imagine toujours représentée, c'est cette espèce d'idéal inatteignable vers lequel on ne fait jamais que se comparer.
Donc quand même, j'ai une licorne qui agit un peu, enfin, oui. Il prend les choses en main.
Attends, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est même en plein dans l'action, là, oui, ça c'est...
Mais voilà, et...
Oui, elle n'est pas passive, voilà.
Merci, c'est gentil. Non, mais y a un vrai fond derrière et tout. Et non, mais même indépendamment de ça aussi, il y a quand même ce côté où la rencontre avec justement l'animal fabuleux en général, et pour moi quand même la licorne, c'est un peu le plus haut de l'animal fabuleux, quelle que soit la forme qu'on lui donne, change les êtres et justement fait aussi que, bah, quand tu parlais des frics par rapport aux gens normaux, entre guillemets, que finalement... avec certaines rencontres, dans certains endroits, des gens qui se réfugiaient bien derrière leur petit costard de normalité ou leur petite armure de normalité quand c'est des chevaliers, peuvent en fait se laisser aller à se découvrir un côté freaks, à se découvrir un côté otaku, pourquoi pas, et à être changé par cette rencontre, donc avec une licorne ou avec le premier manga de leur vie ou avec ce genre de choses. Et c'est une des magies aussi de la rencontre aussi parfois avec un livre, de tout à coup dévoiler une part de personnalité qu'on ignorait ou qu'on n'avait pas forcément. Et après, il faut continuer à vivre et à faire avec en se sentant un peu différent. Et quelque part, c'est ça que permettent les rencontres avec les trolls ou avec les licornes aussi.
Tu voulais dire quelque chose?
Oui, quand oui, je voulais dire que là, moi, d'un coup, je viens de réaliser que mes trolls, licornes et autres, moi, ne sont pas fabuleux. Puisque c'est des créatures tout à fait ordinaires de leur monde en réalité. Donc ils ne sont pas du tout regardés comme étant extraordinaires. Et par contre, à un moment donné, il y a un décalage lorsque ces personnages-là se retrouvent confrontés aux humains, qui là pour le coup sont les créatures extraordinaires de l'histoire.
Tu veux dire que dans un festival aussi fabuleux que les Imaginales, même un troll est ordinaire.
Absolument. Gaieté, il y en a peut-être un qui circule.
Je suis en train de me faire réinviter pour les coups d'après. Hein. C'est juste un truc entre moi et les organisateurs.
Oui, il y en a peut-être un qui circule parmi vous. Hein. Gaieté, regardez.
D'accord. Bon, mais écoutez, je crois qu'on approche de la fin. Là, c'est votre dernière chance de poser une question trollesque ou licornesque. Il y en a une là-bas. Tiens, je vais me déplacer avec le micro. Ah, on bosse, hein, c'est un métier, on est obligé de marcher.
Merci, ça s'adresse à vous, Monsieur Bordage. Vous dites que le troll, donc, c'est la matière et la licorne, l'âme. Dans le contexte où on est maintenant, je ne parle pas forcément religieux, philosophique, même si ça fait partie de ma question. Est-ce que vous ne pourriez pas nuancer ce que vous avez dit ? Parce que en fait, c'est jamais comme si on dit le monde est blanc ou...
Pardon ?
On parle de gris, généralement, on ne dit pas c'est blanc ou noir. Et là, ce n'est pas l'impression que ça donne.
Bonne question, je suis démasqué.
Vous trouvez que Pierre est un troll, en fait.
Oui. Alors, l'idée, finalement, que je voulais sous-tendre de façon inconsciente, encore une fois, en écrivant la nouvelle, c'est l'union des forces terrestres et l'union des forces célestes. Et évidemment, ça peut prendre toutes les nuances de l'arc-en... ça peut prendre toutes les couleurs, toutes les nuances, parce que ça dépend de la force de cette union et tout ça, mais c'est deux puissances. Pour moi, la licorne, c'est la puissance du ciel, dans le sens où le ciel est pur, mais aussi il est extrêmement dangereux, parce qu'il y a le feu du ciel, et le feu du ciel, si vous n'y êtes pas préparé, il vous brûle. Le troll est dangereux, parce que quand il s'ébroue, eh bien, il provoque des tremblements de terre et toute une série de cataclysmes. Donc c'est deux puissances, en fait, le troll et la licorne. Et ce qui m'intéresse, c'est la réunion des deux. Ce n'est pas que l'un va l'emporter sur l'autre, mais c'est de voir si l'un peut s'unir à l'autre. Et là, il y a beaucoup de trolls, effectivement, modernes. On en voit tous les jours à la radio ou à la télévision, parce qu'on ne voit pas à la radio, c'est vrai, j'ai oublié. Donc on en voit tous les jours à la télévision. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment de changer le regard sur le monstre, finalement ? Parce que celui qu'on perçoit comme le monstre, on le repousse. On le met loin de soi parce qu'on ne veut pas se regarder en tant que monstre soi-même, quoi, et la possibilité du monstre. Et la licorne, je pense que c'est le regard qu'on est capable de porter sur soi-même, finalement, ce qui est un regard aimant, finalement. Mais si on n'est pas prêt à accepter ce regard, alors on est brûlé par ce regard. Et c'est cette brûlure-là qui m'intéresse aussi, parce qu'elle montre, finalement, qu'on n'est pas prêt à se regarder soi-même. Et est-ce que c'est assez nuancé ?
Pierre, si tu me permets, je me rends compte de quelque chose, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que on a vécu depuis extrêmement longtemps
ensemble. Ah non.
Non. Quoique, ça me dérangerait pas non plus.
Mais... Lequel des deux fait la licorne, voilà. La question se pose.
Sur la pensée
troll passif,
sur la pensée de Descartes, sur la séparation du corps et de l'esprit,
oui.
Et que justement, on est en train et même les neurosciences montrent que c'est beaucoup plus complexe que ça, la relation du corps et de l'esprit, que la raison a besoin du corps et que etc., etc. Oui. Donc effectivement, ce dont tu parles, c'est un aspect scientifique aussi concret. On est allé au-delà.
Et je suis ravi de l'apprendre.
Voilà. Moi, c'est pour ça que je dis. Moi, j'ai un aspect plutôt spinoziste.
Scientifique, oui.
Spinoza est dans l'expression de quelque chose qui est justement pas trop stricte dichotomie entre la matière et l'esprit.
On va commencer par l'histoire de cul, on finit par la philosophie. Quand même.
Voilà.
Et il y a quand même une chose que je tiens à dire, alors en tant qu'anthologiste, c'est que je suis en total désaccord avec vous, mademoiselle, si vous me le permettez, pour une raison très simple. C'est très joli le gris, c'est très joli le politiquement correct, c'est très joli le pas vers l'autre, etc. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on sache que le troll et la licorne existent, que le blanc existe et que le noir existe, et qu'on peut à un moment donné décider de ne pas se contenter d'un gris, même d'un gris léger. Et moi, j'ai vraiment eu envie d'une anthologie qui faisait ça, qui disait, attendez les gars, on part des forces opposées et on part de là. On peut jouer, on peut les pervertir, mais on part quand même de là. Ben, je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin de notre table ronde. Si vous avez une dernière question... Ah, il y en a une là-bas au fond. Voilà, ça va se terminer.
T'aurais dû rester dans le même coin là-bas parce que c'était...
Oui, c'était bien, non, mais sinon, j'aurais pas dit de bêtises, alors c'était...
Des bêtises, tu peux le dire de n'importe où aussi.
Donc c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le troll donc, ne peut pas avoir d'aspiration spirituelle, je dirais, et la licorne, pas d'envie matérielle ?
Eh bien, je pense qu'ils ont besoin l'un de l'autre. C'est ça la rencontre, finalement. Peut-être que la licorne aide le troll à regarder vers le ciel et que le troll aide la licorne à regarder vers le bas. Et c'est une sorte d'interactivité entre les deux personnages.
Mais donc, pour reprendre l'analogie du blanc et du noir, du coup, ils ne peuvent pas être totalement blanc et noir puisqu'ils comprennent...
Oui, alors moi, j'aime pas blanc et noir parce que c'est un peu connoté, ça fait pi, enfin, l'oiseau. Je préfère dire lumière, je préfère dire éther et matière. Ça me semble plus...
Oui, mais donc la licorne a bien des appétits matériels.
Bah, dans la symbolique de la licorne, assez peu finalement, puisqu'on ne peut pas l'approcher, elle est indestructible. Je pense que vraiment c'est l'animal fabuleux dont parlait Estelle, c'est-à-dire l'animal qui est inapprochable finalement, qui n'est quasiment pas matériel, qui est une sorte de vision, quoi. Et enfin, moi je l'ai interprété comme ça, peut-être que je me gourre complètement, mais après j'ai aussi regardé comment elle avait évolué au fil et à mesure du temps. Ce sont d'abord les unicornes qu'on trouve dans les mythologies chinoises et indiennes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vient de très loin. Elle s'est modifiée d'apparence, elle passait de la chèvre et de l'espèce d'hybride au cheval avec la corne, qui est la fantaisie moderne finalement. Donc il y avait toute cette espèce d'évolution et vraiment ce qui suivait, permanent dans l'évolution, c'était cette idée de pureté. Et la pureté pour moi, c'est pas un truc moral. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble à de l'éther, quoi. C'est quelque chose où il n'y a rien, finalement, où c'est une sorte de vide avec un feu ardent. Et il me semble que la corne, avec sa puissance déchirante et puis flamboyante, elle est l'image du soleil ou de la chaleur extrême qu'on peut trouver dans le ciel, quoi. Et que si on n'est pas prêt à l'affronter, eh ben on est désintégré, tout simplement. Donc il y a besoin de ce rapprochement avec c'est comme Icare. Icare, c'est quelque part, c'est quelqu'un qui cherchait la licorne et qui en est mort, quoi. Et donc il y a cette obligation de rencontre entre, parce que nous sommes des êtres d'essence matérielle et à mon avis des êtres d'essence spirituelle, et c'est essayer de réconcilier les deux en nous.
Mais ce que tu disais exactement, c'est-à-dire que la licorne apprend au troll à regarder vers le haut, et le troll dit à la licorne de regarder vers le bas, au moins pour qu'elle sache qu'il l'aime. Merci, au revoir.
Belle conclusion.